Radio France Internationale. Il est 6h30 ici à Paris, une heure de moins à Kinshasa. Et le journal tout de suite, c'est avec vous, Simon Bourtembourg. Bonjour Simon.
Bonjour Jeanne, bonjour à toutes et à tous.
Et à la une de votre journal, cette rencontre très attendue entre Corneille Nanga et Bintou Keïta.
La chef de la MONUSCO est à Goma, une première depuis la chute de la ville aux mains de l'AFC M23 il y a 5 mois. Nous le verrons, les tensions sont vives entre la mission des Nations Unies et le mouvement rebelle, mais le dialogue n'a jamais été rompu. En République démocratique du Congo encore, la DRC Miningwink de Lubumba se referme aujourd'hui. Des dizaines d'entreprises américaines et européennes participent à cet important rassemblement des acteurs du secteur minier de la région. Le CNDD-FDD renforce sa mainmise sur le pouvoir au Burundi. Après la publication par la CENI des résultats partiels des législatives, Human Rights Watch regrette un scrutin où l'opposition n'a pas eu voix au chapitre. Nous entendrons la réaction d'une chercheuse de l'ONG. Le gouvernement malgache sous le feu des questions de l'opposition à l'Assemblée nationale hier et aujourd'hui encore. Les députés regrettent cependant l'absence de certains ministres. Et puis, dans 12 minutes, le journal des sports, du football avec le mondial des clubs et le championnat national guinéen, et puis du cyclisme et une victoire allemande sur la 8e étape du Tour du Cameroun. Une première depuis la chute de Goma aux mains de l'AFC M23 il y a 5 mois. Bintou Keïta est arrivé hier dans la capitale provinciale du Nord Kivu. Le début d'une visite de 3 jours pour la chef de la MONUSCO qui doit s'entretenir notamment avec le leader de politique de l'alliance Fleuve Congo, Patient Ligodi.
Ce sera le moment le plus attendu de cette visite, la rencontre entre Bintou Keïta et Corneille Nanga. Le mouvement armé considère la mission onusienne comme une force belligérante vaincue, comme l'armée congolaise. Depuis, l'AFC M23 contrôle les zones et surveille de près les déplacements des casques bleus. Le mouvement veut aller plus loin et pousse pour obtenir un mémorandum d'entente avec la MONUSCO. Objectif, redéfinir sa présence sur le terrain. Mais cette demande agace. Une source onusienne contactée par RFI affirme que ce ne sera pas à l'ordre du jour. Autre épisode, en avril, l'AFC M23 a accusé les FRDC, la MONUSCO et la SADC d'avoir mené des attaques contre Goma, Kavumu et d'autres localités dans les deux Kivu. La mission onusienne a démenti. Cette visite de Bintou Keïta intervient aussi au lendemain d'un rapport accablant. Selon le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, la majorité des violations des droits humains enregistrées au mois d'avril sont le fait de groupes armés. Et en tête, l'AFC M23 soutenu par l'armée rwandaise. Mais malgré ce contexte, le dialogue n'a pas été rompu. En mars, Corneille Nanga avait déjà reçu Bruno Le Marquis, numéro 2 de la MONUSCO. Et cette nouvelle visite arrive aussi à un moment particulier. Dans 2 semaines, Bintou Keïta doit s'exprimer devant le Conseil des sécurités.
Au sud Kivu, cette fois, la société civile dans toute sa diversité continue d'appeler pour le retour à la paix dans l'est de la RDC. À Bukavu hier, les représentants des organisations de la société civile se sont donc prononcés pour un dialogue inclusif et de toute urgence. Ils recommandent la mise en place d'un couloir humanitaire, la réouverture de l'aéroport de Goma et également celle des banques fermées en raison du conflit dans l'est du pays. À l'est de la RDC, où sont concentrées la plupart des réserves minières congolaises, cuivre, cobalt, argent ou encore uranium, des ressources naturelles qui attirent la convoitise des Américains bien sûr, mais aussi de l'Union Européenne. L'UE qui souhaite concrétiser le partenariat stratégique sur la transformation et la valorisation des minerais congolais signé il y a de ça 2 ans. Paul Lorgerie, la DRC Mining Week de Lubumbashi tombe donc à pic.
Des dizaines d'entreprises européennes ont répondu à l'appel. Parmi elles, la franco-belge Umicor, qui appuie la société pour le traitement du terril de Lubumbashi, propriété de la Gécamines, dans le recyclage des déchets industriels. Selon un communiqué d'Umicor publié en 2024, l'entreprise doit apporter son savoir à la STL et, en retour, bénéficie d'un accès exclusif à un élément chimique issu des déchets pour le développement de ses activités. Une collaboration qui s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique sur les chaînes de valeur signé entre la RDC et l'Union européenne. Autour de tables rondes, de rencontres et autres échanges de cartes, Bruxelles souhaite aujourd'hui accélérer le processus. Du recyclage à la mécanique en passant par les échanges de savoir, un diplomate européen confie que l'enjeu est aujourd'hui de montrer que l'Union européenne veut agir selon des standards durables aux côtés du gouvernement et de la société civile. Et parmi les projets en préparation, la signature d'un accord entre le ministère congolais des Mines, le Musée royal d'Afrique et le Bureau français de recherche géologique et minière pour un soutien à la numérisation et à la gestion par l'État congolais des archives minières.
L'ambassadrice des États-Unis en RDC a aussi fait le déplacement à Lubumbashi pour ce rassemblement des acteurs du secteur minier de la région. Dans le journal de 7h, heure de Paris, nous décrypterons la stratégie américaine en RDC qui se concentre sur l'exploitation minière. N'y voyez pas un coup de canif dans les relations diplomatiques entre Brazzaville et Kigali. Anatole Collinet Makoso est revenu sur la fin d'une mesure controversée, à savoir la mise à disposition des terres congolaises à des entreprises rwandaises. Le Premier ministre congolais assure que cette décision n'a rien de politique. La fin du contrat entre le Congo et le Rwanda relèverait seulement de clauses contractuelles.
La coopération avec le Rwanda est parfaite. Le problème qu'il y a avec le Rwanda, c'est la caducité d'un certain nombre d'actes administratifs. Le Congo a mis à la disposition des entreprises rwandaises des terres pour l'activité agricole. Les populations, du fait du conflit qu'il y a entre le Rwanda et la RDC, ont cru voir une collaboration avec le Rwanda. C'est juste une autorisation expresse d'occuper qui a été donnée à la société Cristal Venture. Et il y a des clauses suspensives. Si au bout d'un certain temps, aucune activité n'a été réalisée, l'autorisation devient caduque. Et lorsque nous avons constaté que les autorisations qui ont été données n'ont pas fait l'objet d'exploitation, elles ont été annulées. Ce qui n'a rien à voir avec la qualité des relations diplomatiques que nous entretenons avec le Rwanda, des relations qui sont toujours intactes, qui ne souffrent d'aucune anomalie.
Anatole Collinet Makoso, qui s'est par ailleurs entretenu hier avec son homologue sénégalais à l'occasion d'une visite d'amitié et de travail de 3 jours dans le pays. Un déplacement qui vise à renforcer la coopération entre le Congo-Brazzaville et le Sénégal dans le domaine de l'économie, de l'énergie et de l'enseignement supérieur. Au Mali, les réactions sont nombreuses après l'adoption d'un projet de loi qui prévoit d'accorder au général Assimi Goïta un mandat de 5 ans renouvelable à partir de 2025. Ce maintien au pouvoir du président et de l'ensemble des institutions de la transition, sans élection et sans limite de temps, avait été proposé fin avril à l'issue des concertations des forces vives de la nation orchestrées par les autorités de transition. Sur notre site internet, vous retrouvez notamment l'indignation de l'ancien ministre Mamadou Ismaïla Konaté. Aujourd'hui installé hors du Mali, l'avocat n'est rattaché à aucun parti, mais il s'est progressivement mué en farouche opposant des autorités maliennes de transition. À des élections où le libre choix des électeurs a été confisqué. Human Rights Watch réagit à la publication hier des résultats provisoires des législatives au Burundi. Le CNDD-FDD a raflé les 100 sièges de députés en jeu. Le parti qui règne d'une main de fer sur le pays depuis 20 ans avait déjà remporté presque tous les sièges de conseillers communaux. Clémentine de Montjoie est chercheuse sur les Grands Lacs à Human Rights Watch.
Nous avons constaté à travers des entretiens avec des électeurs, des journalistes, des activistes à travers le pays, ainsi que des informations dans les médias, qu'il n'y a pas eu de réelle concurrence politique lors de ces élections. De nombreux Burundais, en tout cas, ressentent une frustration grandissante par rapport à la gouvernance de ce parti. Ils se trouvent dans une crise économique sévère qui persiste et qui a un impact sur la vie quotidienne des Burundais, qui sont confrontés à un taux d'inflation annuel de 40%, par exemple, des pénuries chroniques, une crise du carburant qui paralyse les transports à travers le pays. En plus de cela, il y a une crise des droits humains systémique qui est en place depuis longtemps, avec une opposition qui fait face à de graves violations, du harcèlement, des passages à tabac, mais aussi des arrestations arbitraires, des disparitions forcées, des meurtres, et une société civile et des médias qui sont extrêmement restreints dans ce qu'ils peuvent faire, avec un gouvernement qui est profondément hostile à toute critique, qu'elle soit réelle ou perçue.
Des propos recueillis au micro RFI d'Esdras Ndikumana. La colère au Kenya. Nairobi a été hier le théâtre d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. 2 voitures ont notamment été incendiées. Les manifestants demandent que justice soit rendue après la mort en détention d'Albert Ojwang. Cet homme de 31 ans avait été arrêté la semaine dernière après avoir accusé sur X un responsable de la police kenyane de corruption. Albert Ojwang est donc décédé dans sa cellule où il avait été placé. L'autopsie pointe finalement des blessures infligées par une force externe, une version contraire à celle initialement donnée par la police qui assurait qu'il s'était cogné la tête contre le mur de sa cellule. Le face-à-face doit se poursuivre ce vendredi. Le gouvernement malgache sous le feu des questions de l'opposition à l'Assemblée nationale. L'exercice prévu par la Constitution est l'une des rares occasions pour les quelques élus indépendants indépendantistes et d'opposition de se confronter à l'exécutif. Fait notable, la session a eu lieu hier sans la ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Environnement. Pauline Le Troquier, pour cette première journée, les élus ont donc interpellé le gouvernement sur les urgences socio-économiques du pays.
Le retour en force des délestages, les coupures d'eau, l'insécurité. Face aux membres du gouvernement, les élus pointent les mêmes mots, quelle que soit leur couleur politique et le ton choisi pour le dire. Gaspard Fensou, député indépendant à Antananarive, fait partie des voix qui interpellent le plus frontalement le Premier ministre Christian Tsai.
Cela fait 7 ans que vous dirigez le gouvernement et aujourd'hui 80% des Malgaches vivent sous le seuil de pauvreté selon la Banque mondiale. La situation ne s'améliore pas. Monsieur le Premier ministre, cher ministre, seriez-vous prêt à démissionner si vous sentiez que vous aviez échoué ?
Tout au long de la session, les préoccupations économiques sont restées centrales. Le coût de la vie augmente, une crise de l'emploi en zone urbaine couve depuis l'annonce d'éventuels droits de douane sur les produits exportés vers les États-Unis. Mais le budget de l'État, voté en novembre dernier pour l'année en cours, ne sera pas rectifié. L'élu indépendante Sophie Ratirac s'en agace.
Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'une loi de finances adaptée par rapport à la conjoncture. Avec 8% d'inflation, qu'on en parle en personne responsable parce qu'on est tous censés être soucieux du bien-être et de l'avenir de notre pays.
Le face-à-face va se poursuivre ce vendredi, laissant une occasion aux élus d'interpeller le régime sur les îles Éparses. À 2 semaines de la réunion de la commission mixte dédiée à avancer sur ce différend avec la France. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Antananarive, où il est 7h41, 3h de moins en temps universel.
Pour réécouter ce journal, rendez-vous sur RFI.fr. Afrique Matin sur RFI. Simon Bourtembourg.
Dernier jour de la 3e conférence de l'ONU des Nations Unies sur l'océan, les mers et l'océan décortiqués toute cette semaine à Nice. À cette occasion, reportage à suivre sur les îles au large de la Sierra Leone menacées par la montée des eaux. Eve Baïsba Massoudi est notre invitée Afrique ce matin, ministre de l'Environnement et du Développement Durable en RDC. Au micro de Christophe Boisbouvier, elle revient sur l'impact de la production plastique et donc de la pollution des mers. Extrait de cet entretien à retrouver dans 10 minutes. Afrique Éco à la rencontre des start-up africaines présentes au salon Vivatech de Paris. À suivre également, comme chaque vendredi, la parlotte de Charlotte. Mais avant ça, les sports. Journal des sports ce vendredi avec vous, Antoine Grenier, bonjour.
Bonjour Simon.
Du football, mondial des clubs J-1, la toute nouvelle compétition de la FIFA débute demain samedi aux États-Unis.
Avec 4 équipes africaines parmi les 32 engagées qui s'affronteront pendant un mois, les Mamelody Sundowns, l'Espérance de Tunis, l'Al Ahly du Caire et le Wydad Casablanca. Le club marocain renforcé par l'arrivée du Burkinabé Stéphane Aziski. Le milieu international s'est engagé pour 2 saisons en provenance des Young Africans. Il va donc disputer ce mondial des clubs et il espère que la médiatisation pourra lui ouvrir des portes.
Je suis surexcité, on va dire, parce que c'est une première. Et pour moi, jouer ça, c'est un privilège, surtout avec un club comme le Wydad. Même si après, j'ai pas beaucoup de temps pour m'adapter à l'équipe et faire connaissance. Mais déjà, c'est une motivation et c'est quelque chose de bon parce que voilà, venir apporter aussi ce que je sais faire à l'équipe de Wydad pour le mondial. C'est une grosse opportunité pour moi. Surtout à mon âge, de pouvoir participer à cette compétition, sachant qu'il y a tout le monde entier qui va regarder et il y a plein de clubs aussi qui vont regarder. Donc l'opportunité est à moi en fait, c'est à moi de la saisir, c'est à moi de donner tout ce que j'ai. On va jouer contre une grosse équipe, on va jouer sans regret, moi je vais jouer sans regret, je vais essayer de tout donner, voilà. On va juste se régaler quoi.
Stéphane Aziski avec Olivier Pron, le Wydad Casablanca versé dans le groupe G de ce mondial des clubs en compagnie de la Juventus Turin, du club émirati d'Al Ahly et de Manchester City, son premier adversaire mercredi à Philadelphie.
Du football encore Antoine, cette fois en Guinée avec cette journée choc dans le championnat national.
Duel au sommet entre le Hafia, deuxième au classement, et le Oroya, leader avec 8 points d'avance. À 5 journées de la fin, ce grand derby de Conakry a tout d'un tournant décisif. Coup d'envoi prévu à 16h, temps universel.
En cyclisme, une victoire allemande sur la 8e étape du Tour du Cameroun.
Jan Munter s'impose au terme des 160 km courus entre Douala et Kribi. Le maillot jaune reste l'apanage du Camerounais Boris Michel Tientche, 12 secondes devant l'Algérien Islam Mansouri. Une étape délicate malgré tout pour le leader du général et son équipe.
On a eu vraiment très chaud. Si mes chapeaux étaient créés juste après ma crevaison, les adversaires n'ont pas été faibles parce qu'ils ne devaient pas passer à l'attaque tant que le Maroc n'a pas un problème. Je suis revenu et trouvé qu'il y avait du désordre et c'est parti. Directement, je suis allé causer avec mon capitaine à vaisseau et il a fallu qu'on fasse monter les éléments pour pouvoir rouler. Dieu merci, ils étaient encore en jambes et en surnom, ce qui a permis à ce que nous puissions réduire vraiment l'écart. Et on avait deux joueurs bien classés aussi devant qui pouvaient jouer la gagne d'arrivée. Bon, on a donné une victoire vraiment aujourd'hui. Nous sommes habitués plus aux longues étapes, l'étape du jeu, juste l'enrobé qui n'était pas très très bon et qui nous a posé vraiment beaucoup de dommages. Mais après, tout ça, c'est allé. Dieu merci, on a pu traverser les obstacles-là avec beaucoup d'éléments.
Boris Michel Tiantche avec Joël Wadem. Ce vendredi, journée de repos pour les coureurs du Tour du Cameroun. Ils repartiront ce week-end pour les deux dernières étapes.
Enfin Antoine, en athlétisme, plusieurs performances africaines notables au meeting d'Oslo en Norvège.
Sous les yeux de Monsieur Usain Bolt, guest star de la soirée, l'Ivoirienne Marie-Josée Talou a pris la deuxième place du 100 mètres. Seule la championne olympique de Sainte-Lucie, Julianne Alfred, est parvenue à la devancer en 10 secondes 89. Chez les messieurs, sur le 800 mètres, victoire d'Emmanuel Wanyoni, champion olympique en titre. En 1:42.78, le Kenyan a fini devant le Français Gabriel Tual et l'Algérien Jamel Sedjati.
Journal des sports signé Antoine Grenier. Merci beaucoup et bonne journée. Vendredi 13 juin 2025 et à la une, cette principale information de la matinée, ce sont ces frappes israéliennes en Iran. Elles ont visé tôt ce matin des sites militaires et nucléaires iraniens. Le guide suprême iranien menace Israël d'un sort amener douloureux après ces frappes. L'Iran affirme que les États-Unis seront responsables des conséquences de l'attaque d'Israël. Donald Trump vient lui de déclarer à Fox News qu'il avait été prévenu à l'avance de ces frappes israéliennes sur l'Iran. L'Arabie Saoudite condamne de son côté l'agression israélienne contre l'Iran. La TV d'État de Téhéran reconnaît que le chef des gardiens de la révolution ainsi que le chef d'état-major de l'armée ont été tués, ainsi que l'usine d'enrichissement de Nans dans le centre du pays qui aura été touchée à plusieurs reprises. Elle parle aussi de morts dans des immeubles résidentiels de la capitale. De son côté, le premier ministre israélien s'est exprimé, Benjamin Netanyahu estime être dans un moment décisif de l'histoire d'Israël et il affirme que l'opération militaire durerait autant de jours que nécessaire. Réaction aussi du côté de l'ONU. Antonio Guterres, chef des Nations Unies, lance un appel à la retenue maximale. Nous y revenons largement dans toutes nos éditions ce matin sur RFI. Nous appellerons notamment notre correspondant en Égypte, Alexandre Bouchianti, dans le journal de 7h, heure de Paris. Et vous retrouvez toutes les dernières informations au sujet de ces frappes israéliennes en Iran sur notre site internet www.rfi.fr. Un live en direct pour tout savoir sur le sujet. Nous vous en parlons depuis lundi sur RFI. La ville de Nice, dans le sud de la France, accueille la troisième conférence de l'ONU des Nations Unies sur l'océan. Le sommet se referme aujourd'hui et ce matin, on s'intéresse justement à l'impact de la montée des océans. La Sierra Leone est l'un des pays au monde les plus exposés à l'érosion côtière. Près de 2 millions de personnes vivent le long des côtes qui s'effritent donc, mettant en péril des milliers d'habitations. Illustration sur l'île de Plantin au sud de Freetown, au large des côtes sierra-léonaises. Lisa Fabien.
La terre sablonneuse semble avoir fondu à force d'être léchée par les vagues. Le rivage s'enfonce maintenant à pic dans l'océan. L'érosion de la côte a déjà emporté une partie de l'école de Plantain Island. L'extrémité du bâtiment est détruite et frôle le vide. Le professeur Ibrahim Tarawali se remémore son arrivée sur place il y a presque 20 ans.
Beaucoup d'entre nous sont venus ici depuis le nord pendant la guerre civile. Et maintenant, cette île est en train de disparaître à cause de l'érosion et des intempéries. Oui, j'ai peur. Regardez cette école. Une salle de classe et le bureau du principal sont tombés dans la mer. Graduellement, l'île rétrécit de plus en plus. Et quand elle disparaîtra, il faudra bien partir.
La population était initialement de plus de 5000 personnes. Il n'en resterait plus que quelques centaines. En contrebas, les vagues turquoises viennent se briser à quelques mètres seulement d'une petite mosquée bleue. Autrefois, ce bâtiment se trouvait au centre du village. L'imam Djibril Aladji Camara continue d'y diriger la prière.
Maintenant, Une partie des murs s'est déjà effondrée. Alors les gens viennent encore prier, mais ils ont peur. Alors quand la marée est haute, les fidèles prient vite, vite, le plus vite possible avant de repartir.
Une voisine s'approche. Kadiatou Diallo porte un long voile noir qui recouvre son corps sec. La vieille femme originaire de Côte d'Ivoire pointe la surface lisse de la mer.
Avant, on pouvait marcher jusqu'à la petite île, tout là-bas. Il y avait une route, des maisons et une autre mosquée. Mais tout a disparu. Et juste là, c'était ma maison. Nous vivions de manière très confortable. En fait, on ne pouvait même pas entendre les vagues quand on dormait. Il y a des années, d'ici, on ne pouvait même pas deviner qu'on vivait sur une île. On ne voyait même pas la mer.
L'Agence pour la protection de l'environnement au Sierra Leone et l'Organisation internationale pour les migrations ont mené récemment une étude pour voir comment améliorer la vie des habitants sur place. Henry David Bayo est consultant pour l'agence gouvernementale.
Pour ceux qui veulent rester sur l'île, il faut prendre des mesures de protection. Par exemple, on réfléchit à la manière dont on pourrait restaurer les mangroves qui entourent l'île, parce que cette végétation permet de ralentir l'érosion et de protéger la côte.
Une bonne partie des habitants de l'île Plantin n'ont tout simplement nulle part d'autre où aller, ni même les moyens de quitter leur habitat en plein déclin. Lisa Fabian, de retour de Freetown, RFI.
Le salon Vivatech refermera ses portes demain. Paris accueille en effet ce rendez-vous annuel consacré à l'innovation et à la technologie. Des startups africaines ont bien entendu fait le déplacement. Chaque année, elles sont de plus en plus nombreuses. Elles viennent du Sénégal, du Nigeria, de Côte d'Ivoire ou encore du Congo. Quasiment toutes témoignent de leurs difficultés à trouver des financements. Développer une startup technologique coûte cher et les investisseurs sont de plus en plus frileux. Alexis Bédu.
Comment être certain que ses enfants sont bien arrivés à l'école? L'idée de Magatsila est simple. Au sein de sa start-up Kitus, il a créé un dispositif de pointage biométrique.
Quand l'enfant se présente, l'élève, l'apprenant au niveau de l'établissement, il pose son doigt sur le dispositif. Et dans la seconde qui suit, le parent reçoit un SMS.
Et il le teste d'ailleurs dans plusieurs établissements dakarois. Ce pitch, il le répète toute la journée à Vivatech, auprès d'autres start-upeurs et auprès de potentiels investisseurs qui font ce qu'on appelle le due diligence, une analyse poussée du projet avant de signer le chèque.
On ne peut pas aujourd'hui avoir un contact d'investisseur et avoir les investissements tout de suite. Ça prend du temps. Donc moi, pour moi, c'est l'ordre normal des choses. Mais ce qui est sûr, qu'on tombera sur la bonne porte pour lever le million de dollars qu'on est en train de rechercher.
Mais les grosses levées de fonds sont de plus en plus rares. Les investissements ont baissé et l'Afrique a bien du mal à les attirer. Yaya Koné en est à sa deuxième start-up en Côte d'Ivoire et c'est difficile de trouver des financements pour les jeunes pousses du continent.
Quand on va investir dans une start-up africaine aujourd'hui, voilà, je suis un investisseur, je vais attendre un retour sur investissement 3, 4 ans, 5 ans et j'attends un multiple de l'investissement par 3 par 4. Ça, c'est le classique. Ça marche pas en Afrique, malheureusement. Parce que, finalement, on n'a pas encore un cadre réglementaire. Il y a beaucoup de choses à faire. Comme je dis, par expérience, quand on va regarder aujourd'hui, que ce soit au Nigeria, en Égypte ou au Kenya, c'est vrai, on a quand même on a quelques licornes africaines. Comparé à ce qui s'est fait au niveau mondial, c'est vraiment une goutte d'eau dans la mer. Donc, pour que ça soit un peu plus massif, il faut vraiment regarder l'approche de l'investissement de nos startups.
Des investisseurs frileux au risque, mais certains États africains profitent des 3 jours de Vivatech pour mettre en avant leurs champions nationaux et donner confiance aux financeurs très nombreux à Paris pour cet événement tech.
Afrique Économie et Alexis Bédu à réécouter et à lire quand vous le voulez sur notre site internet www.rfi.fr. On évoquait plutôt la 3e conférence de l'ONU des Nations Unies sur l'océan et cette question, comment mieux protéger nos mers qui recouvrent 70% de la surface du globe. À Nice, dans le sud de la France, 95 pays dont la France ont lancé un appel pour limiter la production de plastique et donc la pollution des mers. Eve Bazeba Massoudi est ministre d'État et ministre de l'Environnement, du Développement Durable en République démocratique du Congo. Elle sera tout à l'heure de l'invité de Christophe Bouvier, mais je vous propose déjà d'écouter un extrait de cet entretien.
Nous soutenons ces traités tout en disant que c'est un processus. On n'est pas là pour les stopper directement, ces plastiques. Nous allons y aller progressivement, c'est l'approche de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas que des bouteilles en plastique, il y a plusieurs sortes de plastiques, y compris des pneumatiques, n'est-ce pas? En passant même par les jouets des enfants et autres ustensiles de cuisine, etc. La récupération, la transformation, le recyclage, etc. C'est comme ça que nous sommes dans ces processus dans notre pays.
Le problème, Madame la Ministre,
ministre, c'est que le plastique, il est fait à partir du pétrole et que beaucoup de pays pétroliers, comme la Russie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, eh bien, ils sont opposés à cette limitation de la production de plastique.
Tout ce que nous allons faire, c'est la conscientisation. Parce que si nous ne prenons pas garde, nous risquons de vivre l'hécatombe, y compris ces pays-là. Alors, nous devons y aller étape par étape, leur demander, par exemple, d'appuyer le processus de récupération de ces plastiques, le processus des déchets. Et étape par étape, lorsque nous allons stopper la consommation, ben, lorsqu'il n'y aura plus de demandes, l'offre ne viendra plus.
Oui, mais ce que disent beaucoup, c'est qu'il ne suffit pas de gérer les déchets plastiques. Il faut aussi réduire la production des plastiques.
C'est ce que j'ai dit, l'offre et la demande. Lorsque nous n'aurons plus de besoins de plastique et ils ne vont plus avoir l'intérêt à produire.
Oui, c'est ça. Il faut remplacer le plastique par autre chose.
Par les matières biodégradables. Au niveau des emballages déjà, je pense que la demande va diminuer. Il n'y aura plus d'intérêt de fabrication. Donc, l'offre va s'arrêter de soi-même.
Eve Bazeba Massoudi, ministre de l'Environnement et du Développement durable en République démocratique du Congo. Un entretien à retrouver en intégralité à 7h45 et 8h45, heure de Paris. Comme chaque vendredi matin sur RFI, c'est l'heure de retrouver Charlotte Ntamack. Charlotte, on connaît les conseillers d'orientation, mais il y a aussi des conseillers qui désorientent.
Oui, dans le parcours scolaire ou professionnel d'un enfant, on fait parfois recours aux conseillers d'orientation. Ces professionnels de l'éducation nationale qui accompagnent élèves et étudiants dans leur choix. Le conseiller d'orientation, c'est quelqu'un qui sait trouver le bon mot, le bon ton et la bonne formule pour dire, par exemple, sans frustrer un enfant, ce qui pourrait s'entendre dans le langage du quartier par quelque chose du genre « Pardon, mon petit, avec les notes que je vois là, oublie l'affaire des séries scientifiques là. Même la série littéraire là, les profs vont trop souffrir avec toi. Si ça ne dépendait que de moi, hein, j'allais même te dire que, pardon, laisse l'affaire d'école là, ce n'est pas ton affaire. » Si le rôle du conseiller d'orientation est d'aider les individus à mieux se connaître et à les guider dans leurs projets, qui mieux que celui qui connaît un enfant et se connaît lui-même pour donner à l'enfant la bonne orientation ou plutôt la bonne désorientation? Incroyable. Je demande à mon fils ce qu'il veut faire après le bac. Il dit qu'il veut devenir pilote. Il veut ma mort. Je vais trouver l'argent ou pour lui faire faire les études de pilote. Je lui ai dit que s'il veut trop piloter quelque chose, qu'il apprenne à conduire la moto pour faire moto-taxi. Même si c'est comment, acheter la moto ne peut pas me dépasser. Amélie, c'est quoi cette histoire d'armée qu'une fille a en tête? Tu sais combien de femmes et même d'hommes meurent au service militaire? Si c'est une histoire de service, hein, tu vas faire hôtellerie. Comme ça, dès que tu obtiens ton diplôme, je t'achète un service de cuisine, tu ouvres le service traiteur. Nous avons nous aussi besoin au quotidien de conseils pour notre orientation. Mais tout comme pour les élèves et les jeunes adultes, parfois, les conseillers d'orientation de notre quotidien sont plutôt des conseillers de désorientation dont les conseils sont de vous désorienter de votre projet initial.
Man, tu m'étonnes, hein? Donc, avec toute la menuiserie là, tu te spécialises sur les salles à manger? Man, spécialise-toi dans la fabrication des cercueils. C'est ça qui donne l'argent.
Mako, ton gars te dit que tu veux faire quoi? Tu dis que tu te réinscris à l'université pour faire quoi avec les études de droit? Hein? Et tu vas faire quoi du bébé? Façon que je vois que tu gères bien la caisse de notre tontine là. Moi, je te conseille plutôt de lui dire de te donner le capital, tu ouvres la boutique. Hein? Comme ça, quand il n'y a pas de client, tu peux continuer d'allaiter l'enfant. Pour une meilleure orientation, il est conseillé d'être à l'écoute des conseillers de désorientation qui sont en fait des conseillers qui vous donnent le bon conseil quand vous risquez de vous désorienter. À vendredi.
Charlotte Ntamack pour refermer cette édition d'Afrique Matin. Restez bien à l'écoute de la Radio du Monde. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité africaine, ce sera à 7h30 heure de Paris avec Arthur Ponchelet. D'ici là, dans 1 minute 30, le début d'RFI Matin avec Julien Coquel-Rohem. Et évidemment, cette principale information de la matinée, ces frappes israéliennes en Iran. On y revient largement dans toutes nos éditions. Restez bien à l'écoute de RFI.
Tout à l'heure sur RFI,
c'est pas du vent, est à Nice, émission spéciale hip-hop, Anne-Cécile Gras.
Ils sont venus du Bénin, de Madagascar, de la Colombie ou de la Réunion pour porter la voix des jeunes dans cette troisième conférence des Nations Unies sur l'océan. Les vidéastes amateurs sont nos invités à Nice, en direct de la Baleine.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.
Préparez-vous à découvrir le futur du stand-up africain. Avec le podcast La Relève du Rire, plongez au cœur de Mon Premier Montreux, le grand casting de l'humour lancé dans 10 pays d'Afrique francophone. Chaque semaine, découvrez un nouvel épisode avec les meilleurs sketchs et l'énergie débordante des humoristes de demain. Alors, d'où viendra la prochaine pépite du stand-up africain ? La Relève du Rire, c'est votre dose hebdomadaire de bonne humeur. Disponible sur RFI.fr, l'application RFI Pure Radio et toutes les plateformes d'écoute.